Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission de la Forêt des Possibles en partenariat avec Écoforum. Nous sommes le mercredi 20 mars 2024 en direct de 19h à 20h. Vous pourrez retrouver cette émission en rediffusion demain jeudi 21 mars de 9h à 10h ainsi qu'en podcast sur Spotify en cherchant la Forêt des Possibles ou sur Radio Galère dans la rubrique Écoforum. Chères auditrices, chers auditeurs, quel que soit l'endroit d'où vous nous écoutez, probablement que, comme nous, vous vous posez plein de questions. La planète va mal, la société est sous tension, et puis nous avons nos questions du quotidien, notre famille, notre santé, notre logement, notre travail. Alors, comment concilier tout cela? Comment trouver sa juste place dans un monde incertain? Prenez le temps de vous poser. La Forêt des Possibles donne la parole aux actrices et aux acteurs qui pensent et font les transitions écologiques et solidaires de Marseille et sa région. Elles et eux se sont posés également plein de questions. Leur parcours ressemble d'ailleurs probablement au vôtre, vous qui nous écoutez. Elles et eux se sont engagés, ils ont créé leurs projets, qui répondent à des problématiques du territoire. Et surtout, ces projets se complètent les uns les autres. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés, mais ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente, créative et solidaire. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de la Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que, vous aussi, vous avez votre juste place à prendre, du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. En tout cas, nos invités témoignent, semaine après semaine, que c'est possible. Je suis Marin Moffret et nous avons le plaisir de recevoir ce soir Florian... dure journée, Dorian et Luc de Filia.
Bonjour.
Bonsoir. Bonjour. Et donc cette émission va se construire un petit peu comme toutes les semaines, chers auditeurs, chères auditrices, du moi au nous et du nous au tout, c'est-à-dire qu'on va montrer comment est-ce que par rapport à un parcours, des questions qu'on peut se poser, on peut créer des projets et comment est-ce que ces projets à leur échelle participent à transformer la société pour vivre dans un monde qui soit plus durable et plus solidaire. Et ce soir, nos grandes thématiques seront autour des questions de l'art, du lien social qui est créé grâce à des productions artistiques, à la fois entre les générations, mais aussi entre les mondes, que ce soit entre les citoyens et l'entreprise. Et on aura aussi l'occasion de discuter sur tout le processus entrepreneurial, parce que ce qu'on aime montrer dans la Forêt des Possibles, c'est des projets qui marchent et qui vous invitent vous aussi à prendre votre juste place. Et c'est aussi important de montrer que ces projets qui marchent, eh bien, il y a tout un processus de maturation avant, avec des questions à se poser et puis des moments où il faut bifurquer. Et on aura vraiment l'occasion de pouvoir rentrer dans ces détails tous les trois ce soir. Et sans plus attendre, je vais vous inviter à rentrer dans la première catégorie de l'émission qui est celle de vous présenter, donc le passage du moi vers le nous. Est-ce que un de vous deux veut présenter un peu son parcours?
Eh bien, je vais commencer puisque Dorian m'a désigné. Donc, je m'appelle Luc. Pour mon parcours, j'ai suivi un parcours scientifique assez classique. J'ai commencé par une licence de sciences pour l'ingénieur. Je suis parti en école d'ingénieur derrière, en génie biomédical. Et puis après, je suis parti faire un an en école de commerce pour une histoire qui est bien plus longue. En fait, je me prédestinais à des métiers où je voulais être à la fois avoir ce côté technique et en même temps pouvoir présenter un produit, créer quelque chose. Il y avait déjà cette envie d'imaginer des choses. Et puis, c'est dans cette école, c'est dans cette année que j'ai rencontré mes deux associés qui sont devenus des amis, Dorian et Valentin.
Bonsoir à tous. Pour ma part, j'ai également fait une école d'ingénieur. Par la suite, j'ai eu également envie de créer mon entreprise et c'est pour ça que j'ai complètement bifurqué vers une école de commerce à l'UEM Lyon. Et comme vous l'a dit Luc, c'est là que je l'ai rencontré. Et on avait tous les deux envie de créer un projet et c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui, un an après l'UEM.
Un an après l'EM, c'est ça. Et donc, on s'est rencontrés, on est tout de suite parti dans un projet entrepreneurial, puisque au début, on est parti de l'intergénérationnel, on en parlera un petit peu après. Mais c'est vrai qu'au début, on avait tous les trois cette envie de créer, on s'est tous réunis autour d'un même projet, autour d'une même ambition, d'une même imagination. Et puis on s'est très bien entendu, alors on s'est dit, pourquoi pas tenter l'aventure?
Donc, est-ce qu'au départ, ce qui vous a amené à vouloir travailler ensemble, c'est l'idée de cette aventure ou c'était le but? C'est l'horizon ou le moyen? Ou les deux?
Réellement, pour ma part, je pense que c'est l'horizon plus qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés tous les trois à travailler sur un projet qui au départ était une sorte de jeu. C'est-à-dire qu'on devait créer un projet entrepreneurial autour d'une thématique très précise. Et puis en fait, en créant ce projet-là, on s'est dit, bah, en fait, je pense qu'on a tous les trois le même horizon. On a tous les trois envie de créer des choses. Donc il faut tenter quelque chose. On va y aller tous les trois, tout simplement.
Et toi, Dorian ?
Pour ma part, c'était un peu différent. J'avais déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, envie d'entreprendre. J'avais envie d'entreprendre déjà et c'est pour ça que j'ai fait l'EM et j'ai eu la chance de rencontrer Luc et Valentin qui n'étaient pas du tout dans cette optique là de base et en travaillant ensemble on s'est rendu compte vraiment qu'on avait la capacité de monter un projet et c'est pour ça qu'on est ensemble tous les trois aujourd'hui encore et du coup c'est une horizon et un moyen pour ma part.
Et Valentin n'est pas là, mais est-ce que vous pouvez quand même un petit peu le présenter et savoir aussi quelles étaient ses intentions également, si jamais vous les connaissez ?
Alors bien entendu, donc notre cher Valentin, s'il nous écoute, si je ne me trompe pas sur son cursus, lui il est parti directement en marketing, voilà, donc il a suivi des études d'école de commerce depuis le début. Lui, c'est vrai que c'était pas son horizon au départ de créer une entreprise. Il voulait travailler dans le jeu vidéo. Voilà, pour être précis, chez Riot, ceux qui connaissent League of Legends comprendront de quoi je parle. Donc, il voulait aller travailler là-bas. Et puis, en fait, c'est en nous rencontrant qu'il s'est dit que lui aussi, il avait peut-être cette envie de créer. Donc, cette envie de nous rejoindre.
Et alors, quand vous dites l'envie de créer, est-ce que vous saviez déjà ce que vous voulez créer pour un horizon particulier ou est-ce que c'était vraiment aussi pour le plaisir de la création et de l'aventure collective ?
Alors, c'était. En fait, on avait un projet à l'EM. Et ce projet-là avait c'était sur justement, c'était vraiment sur le, sur les personnes âgées, l'intergénérationnel, aider les personnes âgées à sortir de cette dépendance, on va dire, et d'être plus accompagnées par leur famille, tout ça. Donc sortir de l'isolement. Et on avait ce projet-là et on a essayé de créer une application en fait qui permettait de relier toutes ces personnes-là et notamment leur famille. Et on s'est rendu compte en fait que c'était très très difficile de relier à travers une application des personnes âgées qui sont éloignées du digital tout en incluant leur famille. Donc voilà, de base c'était ça. Et puis vous allez le comprendre, on a bien bifurqué depuis.
Et, ouais. Parce que ce thème-là, il a été imposé par l'EM, c'est vous qui l'avez choisi, comment c'est arrivé vers vous ?
Totalement imposé par l'EM. Mais, voilà,
mais choisi aussi, c'est-à-dire qu'on avait
oui.
plusieurs choix
oui,
de base.
Part, oui. Okay.
Et on a choisi le choix des seniors isolés. Mm. Mais c'était des thèmes déjà prédéfinis. En fait.
Je pense qu'il y avait une thématique forte sur le social qu'on avait envie de rejoindre, c'est ça qui nous parlait là-dedans.
Parce que là, on parle du moi au nous et du nous au tout, et donc en fait, je m'identifie un peu par effet contraste, pour être tout à fait franc avec vous, dans le sens où, pour ce qui me concerne, moi j'ai fait des études de droit public, et donc avec un parcours très orienté intérêt général, politique publique, et comment est-ce qu'on peut porter des projets constitutionnels pour la France, etc., oui. avec une vision très générale là-dedans. Et j'ai eu un moment où j'ai bifurqué par rapport à la vision que j'avais de la société sur les idées de croissance, de PIB, de pouvoir d'achat, de souveraineté, etc., qui m'ont invité à sortir un peu du rail de ce qui était tout tracé pour moi et de questionner nos imaginaires, d'en promouvoir des nouveaux, d'aller vivre dans les quartiers, d'essayer aussi de retisser des échelles d'action qui peuvent être très différentes avec des gens qui ont des trajectoires qui sont complètement complexes, entremêlées, etc. Et je suis arrivé à l'entrepreneuriat avec le projet de la forêt des possibles, en n'ayant pas du tout fait de parcours d'école de commerce au départ. Et pour être tout à fait franc avec vous, pendant un certain temps, les écoles de commerce, j'ai eu j'ai eu des paroles très dures parce que j'ai vu des proches, que je ne citerai pas, mais où j'ai eu l'impression qu'on leur mettait de la javel dans le cerveau en disant « voilà, en fait, le système il fonctionne comme ça ». Et tu vas trouver ta niche, c'est sa cible, tu vas répondre comme ça, tu vas trouver comme ça une façon de pouvoir te démarquer de la concurrence, tu vas construire ton business model par rapport à ça, et tu vas pouvoir avoir des avantages concurrentiels avec des seuils de rendement. Et je me disais, mais c'est dingue comme on leur apprend à construire des projets, mais sans questionner le cadre et la direction, et tout simplement même le fonctionnement du modèle économique actuel dans une société... basé sur la croissance quoi. Et donc j'en étais un peu crispé hein, pendant un certain temps.
Je comprends.
Et donc là en ce moment avec l'incubation, pour être tout à fait franc, je trouve que c'est assez ambivalent parce que d'un côté c'est des bons cadres pour comprendre aussi comment on lance un projet et puis je pense vraiment que c'est des méthodes qui sont utiles Et en même temps, je pense que le cadre en tant que tel est à re-questionner. Mmh. Et donc le double exercice d'essayer de rentrer dans un cadre que tu questionnes, c'est assez challengeant. Et donc j'ai l'impression que là, on se retrouve aussi un peu sur la même chose, la question des imaginaires, du lien social, de l'entrepreneuriat. Mais vous qui êtes plus parti par une école, l'envie d'entreprendre, l'envie d'une aventure, on vous a proposé un projet, il vous a plu, vous l'avez fait. Là où pour moi, c'est plus... J'avais une vision déjà au départ, et comment est-ce qu'on se saisit des outils qui peuvent être pertinents en entreprenant pour aller vers cette vision.
Je rebondis sur ce que tu dis par rapport à l'école de commerce. Je pense que ce qui différencie, en tout cas là où on s'est compris avec Dorian, c'est qu'on vient pas d'école de commerce réellement, on était des ingénieurs au départ, et en fait en ingénierie on apprend pas du tout ces choses-là, c'est-à-dire faire une entreprise, chercher des potentiels clients, chercher des solutions, chercher des problèmes parfois. En fait ces choses-là réellement en tant qu'ingénieur on les apprend pas, on nous apprend plus à faire des choses très techniques, utiliser des outils, toutes ces choses-là, mais rien de vraiment pas de processus réellement de vente, et c'est ce qu'on cherchait dans l'école de commerce. Donc je pense qu'on a beaucoup plus une mentalité qui est dirigée sur la technique et la recherche vraiment de solutions, et puis derrière on s'est dit bon, la technique c'est bien, mais maintenant il manque quand même cette capacité à comprendre comment on vend quelque chose, comment on vend un projet, et c'est pour ça qu'on a fait cette petite année en plus dans le cursus.
Si je peux rajouter quelque chose aussi, c'est que en vrai je trouve que l'école de commerce en soi c'est plus pour rencontrer des gens qui vont être intéressants par la suite. Tu crées peut-être un réseau qui peut être intéressant pour toi si ton problème répond à des choses auxquelles les gens dans le réseau veulent participer. Mais comme tu l'as dit, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y ait des outils généraux et que ça c'est pas forcément adapté à tout le monde. Donc voilà, faut prendre le bon côté.
Bah, je pense que c'est aussi l'invitation à comprendre que chacun a une complémentarité à apporter, ouais, dans un projet collectif. C'est pareil sur les questions de communication pendant un certain... Mais ça fait un moment que mon regard a changé. Pendant un certain temps, toutes les études de commerce, enfin communication, marketing, je regardais ça en me disant c'est pas du tout mon dada. Et en même temps, quand on veut lancer un projet qui marche, on peut avoir fait un truc super béton, mais si on sait pas le vendre, ça marche pas.
Ouais, complètement.
Donc c'est vraiment la complémentarité des compétences. Là je peux aussi faire mon autocritique juridique. Quand on fait du droit public, on est sur des concepts qui sont parfois hyper abstraits. Hier, pour des raisons personnelles, j'avais un avocat au téléphone par rapport à des choses qui sont liées à mon logement, et je trouvais qu'il parlait une langue que j'arrivais à comprendre, mais je me dis, mais quand tu parles à des gens qui comprennent pas la langue, c'est-à-dire un non-juriste, je pense qu'il comprend rien.
Oui, c'est du mandarin.
C'est du mandarin.
Et donc pour c'est le vrai. Coup c'est voilà, pour être un peu chef d'orchestre dans un projet, ou en tout cas aussi de comprendre quelque chose de collectif, il faut des compétences qui sont complémentaires. Et là vous disiez que on va passer un peu plus vers la question du passage du moi vers le nous, donc votre projet. Vous disiez que vous aviez eu un projet qui vous avait été imposé en même temps que vous l'avez choisi, autour du lien social et des questions intergénérationnelles. Alors aujourd'hui, on en a parlé, votre projet il est pas tout à fait orienté sur ces questions, et on pourra le présenter un peu après, mais j'aimerais que vous puissiez nous présenter un peu l'historique de la réflexion et dans la première direction, ce qui était attendu.
Alors, ça a été un long chemin. Donc, tout d'abord, on avait un projet sur l'isolement des seniors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Puis, on a décidé de faire une application qui permettrait de connecter du coup les seniors avec leur famille. On s'est rendu compte à travers une étude de marché justement que les seniors avaient beaucoup de mal, beaucoup de difficultés avec les outils informatiques, et en plus il y avait déjà beaucoup beaucoup de concurrence dans le domaine, et du coup on a bifurqué sur, on s'est rendu compte que les seniors avaient besoin d'objets en fait pour matérialiser leurs souvenirs, et c'était important pour eux, et c'est là qu'on est parti sur l'art.
En fait, ouais, si je peux rebondir sur ce que disait Dorian, on a réfléchi, il y a un jour on s'est posé dans un bureau tous les trois, puis on a réfléchi, on a dit bon, on a essayé plein de choses, il y a des photos, des vidéos que les gens conservent de leurs souvenirs, mais réellement ils sont dans une galerie photo, on les regarde presque pas, ou alors parfois il y a des albums photos, il y a beaucoup de gens qui font des albums photos, réellement ils restent dans une armoire, on les ouvre une fois par an et puis après on les regarde plus.
Donc on a réfléchi, on s'est dit qu'est-ce qui pourrait rappeler un souvenir en fait, qu'est-ce que les gens font quand ils veulent conserver la mémoire de quelqu'un, et en général c'est très souvent un objet. Donc quelque chose qu'ils ont gardé de leur grand-mère, de leur grand-père, peu importe, c'est un objet, et à chaque fois qu'ils passent, à chaque fois qu'ils voient cet objet dans leur salon, ça leur rappelle tout de suite la mémoire de leur grand-mère, de leur grand-père. Et donc à partir de là on s'est dit bon, il y a peut-être un objet à trouver. Et puis en fait, qu'est-ce qui est aussi unique et aussi fort en émotion qu'un souvenir ? Là, on a pensé tout de suite à l'art, parce que c'est vrai que là, en fait, personnellement, il y a parfois où je me retrouve devant une peinture et je vais avoir les larmes aux yeux, des choses comme ça, et c'est quelque chose de puissant, comme quand je repense à des souvenirs que j'ai eus. Et donc, c'est là que ça a fait tilt, on s'est dit, bon, en fait, ça va être simple, on va prendre les souvenirs des gens, on va les transformer en œuvres d'art, grâce à des artistes qu'on aura rencontrés personnellement.
Et à titre personnel, quand vous m'avez présenté ce projet, c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous inviter à la radio. C'est la question des imaginaires, elle est au cœur de ce que nous, on a envie de pouvoir proposer. Le fait de dire que quand on transforme le regard qu'on porte sur le monde et sur nous-mêmes, eh bien, on peut transformer à l'arrivée aussi un peu nos comportements. Et c'est absolument clé par rapport à la bifurcation écologique et le besoin de plus de solidarité dans un monde qui est un peu en train de s'effriter. Et il faut rappeler qu'il a fait 62 degrés de ressenti à Rio il y a deux jours, et que pour toutes celles et ceux qui pensent que c'est juste des phases du soleil et que c'est naturel, en fait, il ne faut pas oublier que tout est connecté. Donc même s'il ne faisait pas plus chaud, ça n'empêche pas l'augmentation des taux de cancer, la biodiversité qui s'effondre et des sociétés tendues. Donc tout ça, c'est quand même connecté comme des grands châteaux de cartes. Et donc il y a à la fois cette question sur les imaginaires et cette question sur le lien intergénérationnel, qui est une question qu'on aborde un petit peu dans cette émission, mais qui n'a pas toujours été au cœur de semaine après semaine. On en avait parlé d'une fois avec Joe for a Job, où c'était pour le coup mettre en lien des personnes âgées avec des seniors, c'est comme ça qu'ils les appellent, avec des jeunes qui venaient de milieux difficiles, et comment est-ce qu'ils se retrouvaient par rapport au travail où il y avait des échanges de compétences. Là, on est sur un lien entre l'art et l'aspect intergénérationnel. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler un peu plus de cette question intergénérationnelle que vous avez forcément creusée dans ces travaux ?
Alors pour la question intergénérationnelle, c'est une question qui est très compliquée, qui englobe beaucoup de sujets en même temps. On se rend compte que les seniors ne partagent pas forcément tout à leur famille, ce qui est normal d'ailleurs, chacun a ses secrets. Et puis même pour les plus jeunes en général, pour aller vers les seniors, c'est parfois compliqué. Alors il y a beaucoup d'entreprises qui font ça, il y a Familéo par exemple qui propose une gazette qui est faite par les enfants pour les grands-parents. Et en fait c'est surtout ce sujet-là qu'on a creusé, c'était comment arriver à faire transférer des souvenirs dans la famille, comment arriver à faire perdurer un souvenir et qui garde toute sa valeur émotionnelle dans la famille. Et c'est ça le sujet qu'on a le plus creusé. Et en fait, c'est quand même très compliqué parce que dans plein de familles, déjà toutes les familles sont différentes, il y a des problèmes dans chaque famille. Et puis, le sujet de la famille, c'est un sujet assez tendu parfois. Donc c'est compliqué de trouver une solution qui convient à tout le monde, surtout quand ce tout le monde, en fait, il est complètement différent d'une personne à une autre.
C'est ça, ouais. Totalement. Où je peux rebondir là-dessus, c'est vraiment la difficulté où quand on a par exemple un client, une cible particulière, on va dire qu'il y a beaucoup de ressemblances sur cette cible qui vont se multiplier. Là, ici, vraiment, chaque famille est différente, chaque personne fonctionne différemment avec son père, avec son grand-père, avec sa grand-mère. Et c'est là où il y a la plus grande difficulté. On va avoir certains adolescents qui vont pas avoir vraiment de lien avec leurs grands-parents, et en même temps certains qui vont avoir un énorme lien. Et c'est là où nous on avait une grande difficulté à rentrer vraiment et comprendre comment ça marchait de manière générale en fait.
Ouais, je pense que pour terminer rapidement là-dessus, en fait, nous personnellement, on est quand même assez proche de nos familles dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'on partage beaucoup de choses avec nos familles, que ce soit avec des conversations familiales sur WhatsApp ou des choses comme ça. Mais réellement, c'est pas le cas de tout le monde. Réellement, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de familles où personne n'échange, où en fait, ils ne se parlent plus, ou parfois il y a des familles, il y a des parents qui ont divorcé, donc c'est compliqué de partager des choses avec les beaux-parents. Enfin, pour toutes ces raisons-là. La famille en elle-même, en fait, on se rend compte que c'est pas si simple de monter quelque chose qui réunit toute une famille sur un même outil.
Et oui, moi je pourrais rentrer dans ces détails-là. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que ce que vous dites, ça doit éveiller, évoquer beaucoup de choses pour celles et ceux qui nous écoutent, parce que on vient tous de quelque part, toutes et tous, qu'on connaisse les personnes ou qu'on les connaisse pas, qu'on soit proche ou qu'on soit pas proche, qu'on pense les connaître et qu'en fait on les connaît pas ou inversement, on a toutes et tous une histoire. Et effectivement, en plus, c'est une histoire qui est émotionnelle. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de géopolitique dans la famille où il y a des questions un peu de relations, surtout quand...
Complètement.
Ouais, et puis surtout quand la vie avance et donc les enfants deviennent adultes, les parents deviennent des personnes âgées, puis ils ont eux-mêmes leurs parents qui sont vraiment très âgés, certains qui disparaissent, et la question de l'héritage qui peut être à différents ordres, ça peut être un héritage moral, intellectuel, pécunier, immobilier, bref, et effectivement ça crée beaucoup de remous, et puis chacune des relations au sein d'une famille peut être très singulière.
Oui.
On peut être très proche de son grand-père mais pas de sa grand-mère, et très proche de sa sœur mais pas de son frère. Donc effectivement, se réunir tous et tous ensemble autour d'un objet unique, c'est un sacré pari.
Et c'est la difficulté notamment des applications ou des solutions qui existent aujourd'hui pour les personnes âgées et pour les seniors, et c'est cette grande difficulté qu'elles ont à répondre, et nous on y a fait face et on s'est dit peut-être que c'est un sujet qui est trop complexe pour commencer, en tout cas où il nous faudrait beaucoup plus d'expérience. Nous on a juste 25 ans, on sort d'école, du coup on a eu un déclic, en fait.
Le déclic qui est,
en fait, je pense pas que ce soit réellement problème d'expérience, c'était qu'on s'est rendu compte à quel point la tâche était grande. Et à quel point là, tout de suite, dans l'immédiat, nous, si on veut, on monte un projet, il y a beaucoup de questions qui se posent autour du projet, et puis il y a un moment donné où nous, on doit arriver à vivre tout simplement du projet, et on s'est rendu compte que là, pour atteindre le marché des familles, outrepasser tous ces murs, toutes ces barrières qu'il y avait autour de chaque famille, en fait, ça allait nous prendre un temps tellement monstrueux qu'on s'est dit, bon, en fait, ce qu'on va faire, on va essayer de remodeler notre projet et puis revenir sur ces familles-là plus tard, parce que ce qui est sûr, c'est que l'idée, elle est toujours là, on l'a toujours en tête, et on compte pas abandonner ce projet-là, dans le sens où là, dans l'immédiat, on a remodelé le projet, mais plus tard, en fait, une fois qu'on sera bien installé, on compte à nouveau revenir auprès de tout le monde et s'adresser à tous.
Et c'est justement sur cette approche du remodelage qu'on parlera après la pause de tout ce travail, ce processus de réflexion, de maturation, de bifurcation d'un projet, et qui invite à se poser les bonnes questions sur l'entrepreneuriat, et surtout sur l'entrepreneuriat dit à impact positif. Terme que j'aime pas trop, mais qui permet quand même d'avoir une sorte de catalogue où on peut s'imaginer vaguement ce que ça peut signifier. Mais vous dites que vous l'avez remodelé, donc est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement l'objet de ce remodelage ?
Alors, tout simplement, on a décidé de partir du coup comme sur l'art, et on s'est rendu compte encore une fois que pour les personnes âgées et pour en fait les particuliers, ça allait être difficile, puisque au vu du contexte actuel, les particuliers n'auront pas la priorité d'acheter de l'art. Et c'est peut-être ça le sujet qui nous a fait bifurquer vers les entreprises, qui est un sujet totalement en fait différent aujourd'hui. Mais comme vous l'a dit Luc, c'est un sujet auquel il faut passer, on pense, pour toucher après tout le monde. Et en fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est améliorer le bien-être des salariés en incluant dans l'entreprise directement de l'art personnalisé.
Voilà, en fait, pour modeler ce projet, on s'est surtout basé sur le fait qu'on avait beaucoup d'artistes qu'on avait contactés pour toutes ces personnes qui avaient envie de transformer le souvenir. Et à force de rencontrer des artistes, on s'est rendu compte du vrai problème des artistes, à savoir qu'il y en a... commercialement parlant, en tout cas, ils n'arrivent pas forcément à vendre, ou alors ils s'en fichent, tout simplement. Donc il y a vraiment tout ce travail-là derrière. Donc ils aiment beaucoup la partie de création, mais derrière la partie où il faut arriver à vendre son art, ou se montrer sur des salons, ou en tout cas monter un site, des choses comme ça, il y a plein d'artistes à qui ça ne parle pas forcément, ou en tout cas qui ne savent pas forcément comment faire. Et nous, on a eu envie de résoudre ce problème-là pour eux, et on s'est dit, non, mais c'est dommage, là, on a rencontré plein d'artistes, et là, on va juste envoyer un message pour dire, bon, désolé, on change de projet. Non, il ne faut pas qu'on fasse comme ça. Donc on a dit à tous les artistes, en fait, on a réfléchi, et on est sûr que dans l'entreprise, il y a plein de gens qui trouvent que leurs locaux, ils sont ternes, qui donnent pas envie d'aller au travail, tout simplement. Donc, en fait, on a peut-être une solution sous la main, et elle est là.
En fait, vous allez devenir agent d'artiste dans le but de pouvoir créer du lien entre les mondes, quoi.
C'est un peu ça.
C'est un peu ça, exactement.
Eh bah, ben chouette, je vous propose qu'on puisse évoquer la suite de ce que ça puisse, de ce que ça a comme incidence pour la société après l'émission. Dorian, Luc, toujours sur la forêt des possibles, est-ce que vous voulez nous présenter ce qu'on va écouter pour la respiration musicale, puisqu'on est dans une approche tête-corps-cœur liée à l'écologie, la solidarité. Donc là, on était sur quelque chose qui était lié au cœur, avec les liens qu'on a à la famille, avec la tête, on a écouté, et puis vous allez pouvoir peut-être plus corporellement danser sur ce qu'on va écouter.
Alors, c'est une musique sur laquelle on peut danser totalement, et pour ma part, c'est une musique que j'adore avec un ami, et elle m'a inspiré pour cette émission. Je me suis dit que c'était la bonne musique, donc...
C'est une musique qu'on écoute souvent quand on travaille tous ensemble, réellement. C'est une musique qui est inspirée de la culture africaine. Donc c'est de l'électro, tout simplement. C'est dansant, ça bouge, ça nous fait penser à autre chose. Et c'est ce qu'on aime quand on travaille. On est totalement concentré avec ça.
Et ça s'appelle
Osama.
De
Zach Bantwini.
À tout à l'heure. Rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission de La Forêt des Possibles en partenariat avec Ecoforum en direct de 19h à 20h et en rediffusion demain de 9h à 10h. Nous sommes toujours avec Dorian et Luc qui nous présentent Filia et en première partie d'émission, on a présenté ils ont présenté leur parcours, les questions qui se sont posées, la démarche entrepreneuriale dans un but d'impact positif autour des enjeux de liens intergénérationnels via la culture et l'art et ensuite vers une rebifurcation de leur modèle par rapport à une capacité à entrer ou non sur un marché, ce qui pose plein de questions. Et c'est pour ça que c'était très intéressant de vous inviter aussi ce soir. C'est que dans cette forêt des possibles, chers auditeurs, chères auditrices, on vous invite, vous aussi, à prendre les choses en main et à vous engager pour une société qui répond à nos besoins humains tout en respectant les limites de la planète. Et ce qu'on a envie de pouvoir faire passer ce soir comme message, c'est aussi de se poser les bonnes questions pour le faire. C'est que derrière des bonnes intentions, eh bien, il y a une confrontation avec le réel, confrontation avec un marché, confrontation avec des besoins exprimés ou non, et aussi une capacité derrière un vrai besoin à pouvoir le financer pour faire son activité dignement, qui implique parfois à rebifurquer ou passer par des chemins de traverse pour arriver quelque part. Et c'est ce qu'on va aborder dans cette deuxième partie avec quelques grandes thématiques. Et la première, c'est le fait qu'une bonne idée avec un intérêt positif pour la société n'aboutit pas forcément immédiatement sur un modèle économique viable, du moins immédiatement. Qu'est-ce que ça vous évoque, messieurs ?
Je trouve que la métaphore du chemin de traverse est une très bonne métaphore. Parce que réellement, quand on a un projet comme celui-ci, ou en tout cas un projet à impact social, quand on veut aider les gens, on arrive devant un mur de briques, et puis on tape un peu quelques briques, on cherche comment, quel est le code, puis si on a de la chance, le chemin de traverse s'ouvre, et puis là ça file tout droit. Puis si on n'a pas de chance, ben, on tape, on s'efforce, on se tape la tête contre le mur aussi, et puis parfois ça passe pas, ou en tout cas il y a quelque chose qui bloque. Donc nous c'était un peu notre cas, c'est pour ça qu'on a remodelé le projet, comme on a discuté juste avant la pause musicale.
Dorian.
En effet, pour moi, c'est un peu la même chose. En fait, souvent, l'image que j'en ai, moi, c'est on avance, on prend un mauvais chemin, et en fait, le mauvais chemin, bah, il nous fait prendre conscience que c'est un mauvais chemin, mais tant qu'on est, en fait, on est dessus, on ne sait pas que c'est un mauvais chemin pour le moment, et on en prend conscience parce qu'il est, bah, il est vraiment difficile d'accès, il est compliqué, et après, on sait qu'il faut retourner sur le bon chemin, on y retourne, mais on sait toujours pas si c'est le bon chemin. Et en fait, ce qui nous fait tenir, c'est la vision, se mettre des objectifs, c'est très important, et continuer à travailler. En fait, c'est le travail vraiment qui est sûrement le plus important à ce niveau-là, en fait, pour ma part, en tout cas.
Et alors, comment est-ce qu'on identifie un bon chemin d'un mauvais chemin ? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être clé. Peut-être si vous avez un retour d'expérience à faire pour celles et ceux qui entreprennent et qui se disent « Je pense que mon projet a vocation à aider le monde, mais moi aussi, je bute. » Est-ce que c'est parce que la société n'est pas prête ? Est-ce que c'est parce qu'il faut continuer ? Est-ce que c'est parce que, effectivement, c'est un... Enfin, comment tu qualifies quelque chose de mauvais ?
En fait, il n'y a pas vraiment de mauvais chemin. Je pense que toute idée est bonne. C'est plutôt la manière dont on va l'amener. Qui va être différente, donc qui va être mauvaise en fait. Par exemple, on peut prendre un mur parce qu'on a on n'a pas la capacité, par exemple, pour le moment en tout cas, parce qu'on s'est pas entraîné, manque d'expérience, d'arriver à vendre son projet correctement. Souvent en fait, c'est pas un problème de projet, mais c'est un problème de comment nous on va l'amener.
Luc, ça t'évoque quoi ?
C'est une excellente question, des conseils pour savoir quel est le bon chemin, le mauvais chemin. Je pense que, comme disait Dorian, il n'y a pas de mauvais projet pour moi. Disons, ça dépend beaucoup de la capacité avec laquelle on arrive à le vendre, comment on arrive à le montrer. Le mauvais chemin, je pense, c'est celui dans lequel on s'entête contre vents et marées, même si parfois, effectivement, ça peut marcher. Dans tous les cas, je pense qu'on est effectivement toujours sur un bon chemin, parce que même un mauvais chemin, au pire des cas, on va se prendre une claque. On va apprendre de la claque et puis on va repartir sur le bon chemin, on va se redresser. Et puis si je peux donner un conseil pour suivre le bon chemin, en général, il faut tout simplement aller parler aux gens, aller parler sur le terrain, comme on dit hein, parfois, mais c'est le plus important en fait. C'est-à-dire que nous, en école, on a appris beaucoup d'outils, beaucoup de choses à manipuler, des choses pour calculer, est-ce que ça va marcher ou pas. Mais en fait, tout ça, réellement, Je crois qu'on s'en fiche. Ce qui est important, c'est juste d'avoir le retour direct des personnes qui sont là et pour lesquelles on veut trouver des solutions.
Mmh. Moi, ça m'évoque plein de choses, si ça vous va que je participe à cette conversation avec vous. Là. À plusieurs échelles, je vais présenter... Enfin, la forêt des possibles est elle aussi incubée. Elle a plusieurs incubateurs. Il y a la Chambre de commerce et d'industrie, il y a Intermed qui est autour de l'ESS, il y a INCO qui est autour des projets à impact positif, et il y a le réseau des SCIC et des SCOP. Ils ont chacun un prisme un peu particulier. La CCI, c'est très classique. Intermed, c'est très ESS. INCO, c'est très capitalisme vers impact positif plus. Et réseau SCIC-SCOP, c'est très des coopératives et du commun, quoi. Et donc, ça amène globalement dans la même direction, mais avec des prismes qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et moi, ce qui me questionne parfois, c'est vraiment cette volonté de dire « t'entreprends, donc il faut que tu ailles voir le besoin de ta cible et que tu identifies comment tu vas répondre aux besoins de ta cible, comment est-ce que tu vas avoir des avantages concurrentiels par rapport à ta concurrence, qui est ta concurrence, comment tu te positionnes par rapport à eux, quels sont tes canaux de distribution, quel est ton seuil de rentabilité, qu'est-ce que ça va te demander comme effort de production pour arriver à ce seuil de rentabilité. » C'est hyper intéressant de réfléchir sur ça, hyper intéressant. Mais quand on porte un projet qui a lui-même pour ambition de dire ce fonctionnement-là est celui d'un fonctionnement de toujours plus de croissance dans un modèle compétitif qui nous amène à une surexploitation des ressources à coup sûr et qui amène en tout cas à une sorte de brutalité des rapports humains qui vont à l'encontre d'une certaine coopération. Eh bien moi, j'entends ça en me disant c'est intéressant parce que c'est quand même quelques billes qui permettent de projeter un projet dans la vie publique, et en même temps en me disant mais je suis face à ce modèle que j'essaie de décomposer, quoi. Donc c'est un espèce de double équilibre, quoi. Et notamment tous ces enjeux concurrentiels où mon enjeu c'est comment est-ce qu'on va identifier des intérêts particuliers pour les faire converger dans un intérêt commun. Après il y a toute la question de quand on a produit quelque chose aussi, est-ce que c'est un commun et donc ça appartient au collectif, et en même temps c'est nous qui avons travaillé là-dessus et c'est nous qui avons fait les efforts et c'est nous qui, quand il n'y avait personne pour y croire, avons continué à nous battre, etc. Et à se dire que la société en a besoin. Parfois aussi, c'est à quel niveau on situe le besoin. Est-ce que c'est un besoin d'une personne ? Est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est un besoin latent ? Par exemple, on a tous un besoin latent que la société dans son ensemble utilise beaucoup moins de ressources. En revanche, si jamais vous avez un billet d'avion à 15 euros pour aller à Porto, peut-être qu'il y aura quelques personnes qui le prendront, quoi. Et donc, la société a besoin que vous ne le preniez pas, mais peut-être que vous avez besoin que vous le preniez. Donc, c'est hyper complexe. Et donc la question de s'entêter, je trouve que parfois, je me demande à quel point on peut se dire la société en a besoin et je vais l'amener à ce qu'elle mûrisse parce que sinon je peux répondre juste à un besoin immédiat.
Alors moi j'ai une petite réponse par rapport à ça. Pour ma part, pour moi il est indispensable en fait de se servir peut-être un peu de ce qui se passe dans la société, de s'en servir pour grandir et pour changer les choses une fois. Qu'on a la capacité de le faire, en fait, qu'on a la capacité de... C'est ce que fait Anthony Bourbon, d'ailleurs, et ce qu'il veut faire.
Qui est Anthony Bourbon ?
C'est un entrepreneur, c'est un entrepreneur qui a créé plusieurs boîtes et qui donne envie aux jeunes, justement, d'entreprendre. Il a cette envie-là. Et en fait, cette personne-là, elle a réussi à monter en haut, au sommet, et elle s'est dit, ok, moi mon but c'est de monter au sommet pour déconstruire tout ce qui se passe au niveau politique, au niveau social, et repartir sur des bonnes bases, sur des bases saines.
Je peux challenger ?
Bien sûr.
Dans ma vie d'avant, j'ai été lobbyiste chez Danone, et j'ai rencontré le PDG Emmanuel Faber qui avait la même politique, mais en fait c'est un pas devant, trois pas derrière. Oui, on peut aller au cœur du système et se dire, une fois que je serai là-haut, j'arriverai à tout changer. D'ailleurs, c'est ce que nous a vendu le président de la République. Aujourd'hui, il ne sait pas trop la trajectoire qu'il est en train de prendre de façon générale. Parce qu'il y a aussi l'inertie du système. On peut être une personne au cœur du système, mais le système porte sa propre inertie. Il a ses propres règles, il a sa propre trajectoire. Et à titre personnel, c'est aussi pour ça qu'avec le projet de la forêt des possibles, l'enjeu, c'est d'essayer d'agir à toutes les échelles. Parce que c'est très organique. C'est des personnes qui sont dans des dynamiques collectives, qui sont elles-mêmes dans des dynamiques de société, qui s'inscrivent dans des histoires personnelles et des histoires collectives. Tout s'imbrique. Et on peut se dire, c'est une pyramide, et une fois que je serai en haut, je vais pouvoir gouverner et faire redescendre. Mais si jamais tu es pris déjà dans une trajectoire, c'est pas forcément sûr que tu arrives à tout changer.
C'est pas faux, mais en tout cas, c'est totalement l'objectif et l'ambition de ce mec-là, en tout cas. Et pour moi, il va y réussir.
Pour moi, c'est, alors sans parler forcément de gouverner les autres, ou en tout cas d'être en haut d'une pyramide, je trouve que la démarche est plutôt bonne dans la mesure où en fait cette personne-là dégage une aura qui va inspirer plusieurs autres personnes à monter leur projet. Enfin, personnellement, c'est ce que je rêverais d'être plus tard. C'est-à-dire, je rêverais d'être cette personne qui, de par ce qu'elle a réussi à monter des projets, parce qu'elle a réussi à vivre sa vie de par ses projets, ben, pouvoir être là et inspirer plein de jeunes qui, comme moi, se posaient plein de questions, parce que je m'en suis toujours posé. En fait, voilà, mon rêve, c'est de parler au petit Luc quand je serai plus grand et de lui dire « Mon petit Luc, t'inquiète pas, tu vas y arriver. » Et je pense que dans la démarche, dans le fait de dégager cette aura-là, il réussit sa mission.
Du mot au nous, du nous au tout. Petit Luc qui a créé son projet pour transformer la société. Et là, on a vraiment parlé de l'entrepreneuriat comme moyen de transformer la société dans un but d'impact. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on parle de l'entrepreneuriat tout court. Comme vous le disiez, on parlait de cette Anthony Bourbon.
Bourbon, oui.
Ouais, qui est inspirant. Je trouve que dans l'imaginaire collectif, dans ce qu'on dit à la télé, on présente toujours les entrepreneurs qui ont réussi, que ça soit des Elon Musk ou des Jeff Bezos qui sont, ou même des Mark Zuckerberg qui sont des grandes stars américaines, mais il y a aussi après les entrepreneurs à impact positif en France, etc., des social entrepreneurs. Mais on ne parle pas aussi de toute la difficulté de tous ceux qui ont raté. Alors, ce n'est pas votre cas, mais il y en a plein qui ont tenté des trucs qui se plantent. Et je trouve que là, à Marseille, il y a eu le plan Marseille en grand qui invite les jeunes à s'investir dans des projets entrepreneuriaux. Et le président de la République a aligné je ne sais pas combien de millions d'euros pour pouvoir avoir des incubateurs qui puissent accompagner très spécifiquement les 18-30 ans de Marseille qui viennent des QPV pour lancer leur projet. Et derrière, allez-y. Mais ça a des incidences. Ça a des incidences parce que monter son projet, ça veut dire déjà, il faut avoir la force mentale pour le faire, il faut avoir les reins solides, il faut avoir des ressources matérielles, des ressources psychologiques, des ressources relationnelles. Et parfois, certains projets nécessitent aussi d'avoir des fonds au démarrage et qui peuvent avoir comme incidence le fait de s'endetter au départ. Alors, ce n'est pas votre cas, mais là, vraiment, le point que j'aimerais qu'on aborde, c'est aussi s'inviter à se poser les bonnes questions au bon moment. Là, on parlait de bifurcation dans votre modèle, pour se dire en fait c'est peut-être trop compliqué maintenant ou on va passer par un autre chemin, et j'avais envie qu'on puisse creuser un petit peu ça.
Alors plutôt sur la partie personnelle ou sur la partie de l'entrepreneuriat?
Sur la partie vraiment se dire que l'entrepreneuriat c'est une aventure mais qui, une fois qu'on est lancé dedans, nous engage et n'est pas sans incidence.
Oui. J'aimerais revenir sur ce que j'ai dit juste avant, savoir que s'entêter parfois c'est pas forcément bon. En fait, il faut s'entêter dans tous les cas quand on monte un projet, parce que des problèmes on va en rencontrer plein. Et le début, effectivement, tu en parlais, tu disais qu'on retient facilement le positif pour ces personnes qui ont, enfin, Elon Musk, etc., qui ont réussi. Mais tout le négatif, on n'en parle que très rarement. Et en fait, on passe vraiment par des moments de remise en question qui sont exceptionnel, parce qu'on va se retrouver le soir à se poser des questions sur sa vie entière, parce qu'en fait on est en train de prendre un chemin tellement différent que ce que notre environnement nous dessine. Quand je parle d'environnement, je parle de tout le monde, je parle de la famille, des amis, etc. On prend un chemin tellement différent de ce que cet environnement nous dessine qu'on en vient à nous-mêmes se poser des questions à la moindre barrière. C'est-à-dire qu'à la moindre barrière, on se pose des questions sur « Ah, mais quand même, là, je suis en train de me prendre un mur. En fait, est-ce qu'il avait pas raison? Peut-être que mon projet, il est pas si bien. Peut-être que je peux pas aller au bout. » Et tout ça, ça entraîne vraiment un état, je dirais, de constante réflexion où on se pose toujours des questions. Mais bon, on continue d'avancer. Comme je disais, on s'entête. Et je dirais que dans l'entrepreneuriat, voilà, le plus dur, c'est de se prendre des barrières, parce que les gens ne le remarquent pas forcément. Ils remarquent très facilement les côtés positifs, c'est-à-dire dès qu'on va faire un devis, dès qu'on va faire ça, on va signer notre premier contrat, ça va, tout le monde va applaudir et on va penser que ça marche. Mais par contre, toutes les fois où on a des personnes qui nous ont pas respectés parce qu'ils nous ont raccroché au nez, toutes ces fois où on rencontre des gens dans la rue qui nous serrent pas la main, enfin, en fait, on n'en parle jamais de ces moments-là, et c'est des moments qui sont durs à passer effectivement.
En effet, en fait. Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Luc. La plus grande difficulté, c'est vraiment de rester de rester constant et malgré l'environnement qui est complètement différent ou la pression des parents ou la pression des amis. Enfin, c'est même pas une pression qu'ils te mettent eux, mais c'est une pression que tu te mets toi par rapport à eux. Et c'est ça la plus grande difficulté pour ma part. La difficulté aussi, bien sûr, c'est de pas gagner d'argent de suite quand on voit tout son environnement en gagner. Et donc de vivre avec peu, ça c'est une difficulté, mais c'est aussi un apprentissage énorme. Et l'entrepreneuriat, en fait, c'est une véritable expérience. Et j'invite à tous ceux qui souhaitent se lancer. Et ils verront par leurs propres yeux ce que c'est comme magnifique expérience.
Luc, merci Dorian. Luc, tu voulais rajouter un petit point ?
Un petit point sur ce que disait Dorian, parce que d'un coup, il parle des parents, donc forcément, je m'y reconnais aussi. C'est plus dans le sens où, en fait, on va pas sentir. C'est plus une pression qui est indirecte, dans la mesure où nos parents vont pas être là à nous dire qu'est-ce que tu fais dans ton projet. En fait, c'est une pression indirecte dans le sens où nos parents, ils nous ont toujours poussé à faire ces études qu'on a fait, des études d'ingénieur, etc. Et donc, je pense que, voilà, ils imaginaient ce parcours tout tracé d'ingénierie, etc., dans une belle boîte, toutes ces choses-là. Et nous, on prend un chemin qui va un peu à contre-courant et donc on se met une pression psychologique parce qu'on se dit mais si je réussis pas réellement qu'est-ce qu'ils vont penser de moi en fait. Donc c'est très émotionnel l'entrepreneuriat je pense.
Ouais, je rentrerai pas dans mes propres enjeux parce que ça m'évoque beaucoup de choses. Il y a un témoignage que j'ai entendu il y a pas très longtemps dans un de mes incubateurs d'un entrepreneur que j'avais envie de partager. C'était quelqu'un qui avait fait de très belles études, il avait fait Polytechnique et puis il avait voulu améliorer la vie des familles avec des enfants en bas âge. Et puis en fait, son activité concrète n'était pas ce qu'il avait espéré. Et donc il avait déjà une frustration de se dire « je voulais faire un truc et en fait, ce que je fais concrètement... » c'était pas ce que je voulais faire. Donc ça, déjà, il y a un premier enjeu. Parce qu'il faut passer par des voies parfois de traverse qui peuvent nous détourner. Ça, c'est un premier point. Et il a eu une autre remarque que j'ai trouvée hyper intéressante, de dire, quand on est entrepreneur, on est un peu à la recherche un peu de l'or, et se dire, on va changer le monde, on a notre truc, etc. Et on est entouré par des gens qui vous proposent leur pioche. Et de dire, en fait, il va y avoir l'avocat qui va te proposer une pioche, l'expert comptable qui va te proposer une pioche, le graphiste qui va te proposer une pioche, le conseiller, le coach, le machin, le bidule. Sauf que toutes les pioches, elles sont payantes. Et puis certaines, elles coûtent très cher. Oui. Et donc, il invitait à se dire, déjà, il faut se poser la question de savoir, est-ce que j'en ai vraiment besoin, à quelle échéance, dans quel ordre on fait les choses, etc. Donc ça, c'était intéressant à voir. Et il donnait deux exemples. De un gars qui avait fait une levée de fonds pour payer des outils d'une marketplace qui marchait pas, et il s'était retrouvé avec une marketplace qui marche pas, une levée de fonds qui le rendait hyper endetté. Ouais. Il était j'ai une espèce de petit rire nerveux, mais il avait divorcé, il était en dépression. Et un autre, ils étaient deux, ils avaient engagé un projet à 25 ans, et à 30 ans, ils ont dit « Ok, maintenant on arrête. » Mais super expérience, on apprend plein de trucs, ils se sont pas endettés. Et de se dire à certains moments aussi, il faut savoir dire « Stop ». Et franchement, ça m'a fait réfléchir, parce que j'ai trouvé que c'était intéressant de se dire que voilà, c'est pas si anodin que ça. Il y a tous les aspects psychologiques qu'on a abordés, mais il y a aussi la question économique. Et donc c'est vraiment un choix profond dont il faut avoir conscience des incidences.
Alors je vais rebondir sur ce que tu as dit sur le fait de prendre, enfin directement se lancer dans une levée de fonds, demander de l'argent, payer des gens. Alors c'est souvent ce qu'on dit. On dit si vous voulez devenir riche, et c'est souvent ce qu'on entend sur les réseaux en tout cas. Si vous voulez devenir riche, automatisez tout, pensez sur le projet et pas dans le projet. Et en fait, pour moi, c'est sûrement une erreur. Et c'est parce que, en fait, en apprenant toutes les difficultés qu'on a, moi, j'ai appris le code pour mon projet. Luc, il apprend plein de choses. Valentin également, il apprend plein de choses sur les réseaux sociaux, tout ça, pour faire grandir la communauté d'artistes. C'est en faisant ça, justement, qu'on apprend l'entrepreneuriat, en fait, qu'on comprend l'entrepreneuriat. Et si on arrive, on paye des gens pour faire notre projet à notre place, ben, je pense qu'on loupe quelque chose quand même. Et même si ça réussit derrière, on aura quand même loupé quelque chose.
Je vois le temps qui file, on pourrait aborder plein d'autres sujets généralement, c'est toujours très dense et on n'a pas du tout parlé de la question artistique et comment est-ce qu'on peut toujours créer des liens avec, entre les personnes. Ça sera l'occasion d'en parler une prochaine fois. Je vous invite, messieurs, à nous donner une petite phrase de conclusion. Donc, libre à vous de parler de l'art, parler de l'entrepreneuriat, lancer quelque chose dans la société. Il vous reste une minute et demie chacun, une minute chacun.
Alors, je pense que l'entrepreneuriat, c'est une très belle aventure. Il faut la vivre le plus tôt possible tant qu'on n'a pas de frais engagés. On en parlait tout à l'heure avec Marin. Tant qu'on n'a pas tous ces frais-là, il faut se lancer dans l'aventure. En tout cas, si on a une petite idée, il faut y aller à 100%. Le plus important, je pense, c'est de croire en ses rêves et d'aller au bout. Et puis, puis c'est pas grave. Si ce chemin-là, il passe pas, tant pis, on en prendra un autre plus tard. Réellement, peu importe l'âge, en fait, la vie, elle est courte, mais en même temps, elle est assez longue pour qu'on puisse avoir plein de projets différents, qu'on puisse entreprendre plein de choses et vivre plein d'aventures. Donc, il faut toutes les vivre, et surtout les vivre avec le cœur et à 100%.
Merci Luc. Dorian, peut-être aussi un petit point autour de l'art, puisque c'était un peu un deuxième fil rouge.
Exactement. Ben alors, l'art, c'est important. Aller au musée, aller voir, regarder les peintures quand vous allez au restaurant, regarder tout ce qui vous entoure, observer, et vous allez voir que la vie est vraiment plus belle que ce qu'on le fait paraître. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on travaille dessus. Moi, ma mère est artiste peintre, donc c'est pour ça aussi que je me suis lancé dans ce projet avec l'art. C'est un des sujets qui m'a fait me dire, allez, let's go, on aide les artistes. Et voilà, c'était le petit mot de la fin.
Merci beaucoup, messieurs. Merci, Dorian. Merci, Luc, de nous avoir présenté Filia, vos parcours, ces questions autour de l'entrepreneuriat.
Avec plaisir.
On vous souhaite le plus de succès possible et puis de pouvoir ensemencer plein de graines dans le cœur des gens avec les œuvres artistiques que vous allez promouvoir. Remercie Sidi en régie et on vous souhaite une très bonne soirée avec La Forêt des Possibles et ailleurs sur Radio Galère. Bonne soirée.
Bonne soirée.